écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Benoît Castillon-Duperron.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission du Ciala qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Benoît Castillon-Duperron. Benoît, merci d'être aujourd'hui avec nous. Nous allons échanger sur votre livre qui s'intitule « Mourir avec la rivière », paru en 2017 aux éditions Arcades en Beau. Votre deuxième roman, sauf erreur de ma part, hein, avec un précédent roman en 2002 qui s'intitulait « Le rêve du père Riou », paru aux éditions Faber.
Oui, alors c'était des nouvelles. Hein,
mais, d'accord. Merci beaucoup de la précision.
Oui.
Pour commencer nos échanges, peut-être cette question un peu générique, mais c'est connaître peut-être un peu la place de l'écriture parmi vos nombreuses activités. Notamment celle de pédagogue, d'enseignant en littérature. Voilà, est-ce que la place de l'écriture de romans est particulière ? Cette histoire d'amorcer avec vous l'échange.
Oui, merci. L'écriture, elle a toujours été dans ma vie. Les mots, l'amour des mots. Je pense que depuis l'âge de 8 ou 9 ans, oui, j'étais très attiré par les mots, par les livres. Plus que par les mathématiques, ça c'est d'évidence. Et puis effectivement, pour des raisons, je dirais, de survie alimentaire, moi aussi, parce que ça m'intéressait beaucoup, je me suis occupé de jeunes en difficulté toute ma vie et j'ai enseigné. Alors il était évident que quand on enseigne, et qui plus est quand on dirige des établissements, ce qui a été souvent le cas, collège ou lycée, ça m'obligeait à me lever très tôt le matin, 4h du matin, pour écrire entre 4h30 et 6h30. Donc la production était peut-être plus limitée. Et le temps aussi qu'il faut, en dehors de l'écriture, le temps de maturer les idées, de les porter avec soi, je ne l'avais pas. Et maintenant... les choses sont totalement différentes. C'est-à-dire que depuis 3 ans, je n'ai plus à me soucier du côté social, de gagner ma vie. Je suis, comme on dit, à la retraite, mot détestable. Et je peux écrire vraiment des matinées entières. C'est une grande joie. Et puis me promener l'après-midi en pensant à ce que j'écrirai le lendemain. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors, dans « Mourir avec la rivière », le narrateur emmène le lecteur dans les lieux qui ont jalonné sa vie des années 50-60 à nos jours. La maison de sa grand-mère, la Solière, avec la rivière, a énormément marqué son enfance. Il est élevé dans une famille bourgeoise, entre un père peu présent et une mère peu aimante. Dans les années 70, il découvre à Paris le monde artistique et notamment la littérature. Le récit fait des allers-retours entre le présent du narrateur et ses souvenirs qui ramènent régulièrement vers la rivière qui devient quasiment un personnage. André va nous lire un premier extrait.
Date-t-il de cette époque ce cliché noir et blanc où je me vois ? Sans doute âgé de 6 ou 7 ans, est-ce une scène savamment orchestrée ou un vrai fait du hasard? Ce ne peut être que lui, le photographe. De toute façon, qui d'autre aurait pu me surprendre et où me faire poser ainsi avec une telle délicatesse. Dans ma chambre, nu, de dos, j'émerge à peine d'une nuit ou plus vraisemblablement d'une sieste. Appuyé au bureau, je me penche par la fenêtre ouverte. On ne voit qu'à peine la rivière en contrebas qui déroule son méandre. Reste l'arrière-plan du ciel avec au loin la cime des frondaisons. Il est curieux, me dis-je, qu'il subsiste tant d'images en couleur de mes sœurs et rien de moi, de ce temps-là, sinon cette vue à la Douaneau. Comme s'il avait existé une vie heureuse, mobile, éclaboussée de bonheur, bariolée de lumière, uniquement pour les filles, tandis que, exclues du monde arc-en-ciel où elles évoluaient, je m'étais trop vite retrouvé dans l'univers des noirs, des gris-blancs finement déclinés de la douce, amère nostalgie. La réalité plus prosaïque réside peut-être dans le fait que ce jour-là, mon père n'avait chargé dans son Leica qu'une pellicule d'un type et non d'un autre qu'il ne possédait plus. Ou alors, il avait volontairement opéré ce choix pour justement conférer à la photographie du petit garçon à la fenêtre sa douceur et sa force. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est à mon tour, en fouillant ma mémoire, de me retrouver dans le camp de celui qui choisit et compose les images, le camp de l'écrivain si proche du photographe, ou plutôt de celui de l'homme à la lorgnette, pour reprendre cette expression paternelle. L'homme à la lorgnette, il fallait ou devenir cela, c'est-à-dire se trouver toujours physiquement, mais aussi et surtout intellectuellement, quelques pas au-dessus, en arrière de l'action. Façon de se situer et de voir qui, selon mon père, permettait à qui adopte ce point de vue d'analyser de la plus subtile des façons toute situation du monde où nous avons la redoutable chance d'avoir été précipités.
Alors, en lien avec l'extrait que vient de lire André, une question autour, effectivement, de ce que nous avons un peu repéré de style littéraire. On est face à une écriture foisonnante, on pourrait presque dire luxuriante. Ce n'est pas habituel de qualifier une écriture avec ce terme, mais et on a vraiment quelque chose, effectivement, qui relève de la photographie, qui relève de la peinture. À chaque fois, presque, hein, vous usez d'énormément de descriptions qui pourraient nous faire... dessiner immédiatement ce que l'on lit. Et la question, c'est quelle est votre recherche un peu à travers ce type d'écriture, hein?
Alors, j'ai pas l'impression d'avoir une recherche théorique, une recherche technique particulière, au fond. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des poèmes. Et les poèmes, ce sont des sensations, ce sont des images. Et je crois que vraiment, c'est la sensation, c'est l'image, et la recherche de coller au plus près, finalement, de la sensation et de l'image qui doit guider les mots. Mmh. Les mots arrivent après, me semble-t-il.
Ouais. Ben non seulement les images, mais les sons, les odeurs, tout ce qui est sensoriel, sensuel, enfin, notamment... j'ai trouvé, moi, dans la première partie, pas dans la première partie, parce que c'est un peu de tout ce qui se passe concernant la rivière, quoi. Enfin, toute cette campagne environnante, tous ces... Voilà, ouais, c'est pas seulement les images, quoi, c'est aussi...
Oui, tout... vous avez raison, alors c'est vrai qu'il y a une espèce de recherche qu'on pourrait qualifier de désespérée, parce que tout instant meurt. La mort est déjà présente dès que l'instant passe, dès qu'il y a des belles choses que l'on vit, elles sont derrière. Moi, j'ai toujours ressenti ce sentiment de la nostalgie de l'instant derrière, comme ça. Et quand ils sont beaux, quand ils sont précieux, quand ils sont intenses, on a l'impression d'un trésor qui disparaît littéralement. Et heureusement, l'écriture est là. Bon, on pourrait dire aussi la musique, la photographie, pour capter cela, et en tout cas pour le garder en réserve. Oui, j'ai l'impression que l'écrivain, c'est quelqu'un qui doit garder en réserve et retraduire en mots ce qu'il a réservé par la mémoire, grâce à cet outil merveilleux qu'est la mémoire.
Oui, parce que c'est construit un peu comme si, comme dans la vie, on a le présent, puis tout d'un coup, pof, il y a un jaillissement de souvenirs, et puis qui enchaîne d'autres... J'ai eu cette impression-là, moi, en lisant
Je suivais ce fil-là, c'était vraiment ce fil-là. Alors évidemment, il y en a un qui l'a fait de façon beaucoup plus intense et très longtemps que moi, c'est Proust.
C'est vrai.
mais je l'aime énormément, Proust. Oui. Évidemment, c'est quelque chose de... On est en toute humilité, en fraternité dans cette recherche.
Alors, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de nostalgie, c'est intéressant parce que on avait envie aussi d'aller un peu chercher sur... Donc ce livre, c'est à la fois quelque chose de très personnel, un narrateur qui raconte c'est son histoire à travers des âges, des endroits, des lieux. Mais c'est aussi un livre qui fait l'éloge d'une époque, les années 70, pour ne pas dire les années 68. Et puis, c'est donc l'époque de tous les possibles, de la remise en cause de l'ordre établi... Et la question, c'était justement, est-ce qu'il y a aussi, à travers ce livre, la nostalgie, pas uniquement du moment quasi mort, comme vous dites, dès qu'il est passé, mais la nostalgie de cette époque elle-même foisonnante. Donc, en tout cas, c'est une lecture que l'on a fait et on voulait un peu échanger avec vous là-dessus.
Oui. Je vous remercie de poser cela. Il n'y a pas que la nostalgie, ça serait un sentiment triste. Il y a la joie. Il y a la joie, il y a des grands moments de joie, il y a des moments d'émotion, de rencontre. Alors c'est vrai que le Paris des années 70 est un Paris, même si l'adolescence c'est compliqué, et que le moment où je vivais ça c'était l'adolescence, mais le Paris des années 70 c'était un Paris qui n'a absolument rien à voir évidemment avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pas de coronavirus, beaucoup moins de violence, des rues ouvertes, des rues libres. Moi, je me souviens de traverser de Paris la nuit sans aucun risque, avec beaucoup de joie. Des gens qui jouaient de la guitare sur les trottoirs et sur les quais de la Seine, partout. Et voilà, oui, c'est vrai qu'il y a cette joie-là. Il y a aussi, oui, la joie de ce qu'on fait généralement quand on a 17 ans, si on est un petit peu vivant, c'est-à-dire qu'on remet l'ordre en question, on enlève, on arrache de son éducation ce qui ne nous plaît pas, et on garde le meilleur. Voilà. Et le meilleur, j'ai essayé de le traduire aussi dans ce livre.
Alors, nous allons faire une pause musicale avec la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, choisi par Benoît Castillon.
Yeah.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala, écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Benoît Castillon pour son livre « Mourir avec la rivière ». André va nous lire un deuxième extrait.
Un matin, il est là, Hubert, comme une apparition. J'étais seul et voici qu'il est là dans la cour blond-bleu du petit matin ensoleillé. Il vient juste de poser son vélo le long du mur des communs. Tout de suite, j'ai vu l'épuisette en bambou, la vieille boîte en ferraille, peinture verte et cahier de rouille, tandis que d'évidence, nous nous reconnaissons, nous, les deux étrangers. Ce sont surtout ses yeux qui me touchent, de la même opale que le ciel qui l'enveloppe, tandis qu'il se baisse et dénoue un par un, méticuleusement, les bouts de ficelle, libérant d'un coup le petit fagot de canne. Il est debout maintenant, avec son matériel dans les mains, sous le bras. Il n'a pas d'âge, Hubert, 20, 40, avec ce quelque chose d'indicible qui rejoint mes 10 ans. Pour l'instant, on ne m'a rien dit de lui, personne. Alors, Eric, toi aussi tu aimes la pêche ? J'ai juste eu le temps de voir, par-dessus l'orge des cheveux en broussailles, cette fragilité, fluidité du regard qu'aussitôt son corps massif détourne avec pudeur. Il est sympa, Hubert. Voilà par où tout a commencé. À peine ai-je prononcé cette phrase, qui n'attendait rien qu'un silence, la musique silencieuse du plus pur acquiescement, voici que s'engouffre de toute sa violence le flot noir et puant de leur miasme d'isère. Mais tu sais, mon chéri, lorsqu'elle voulait te tuer, les phrases de ma mère commençaient toujours par « mon chéri ». Tu sais, Hubert, il est gentil, sans doute, mais il n'est pas de ton milieu. Le milieu, c'était tranchant, le premier coup de couperet. Puis insidieux venait courageusement réaliser en cœur le travail au hachoir, de la coopérative bourgeoise. « Et puis vois-tu, il n'est pas très intelligent, » soufflait l'oncle Raoul. « Il a des prétentions d'intellectuel, mais c'est un raté, » cinglait ma mère. « Mais oui, tu sais bien, » achevait tante Norma. « Il disait partout qu'il était infirmier. » »« Mais nous nous sommes renseignés au CHU d'Angers. Ce n'est qu'un simple garçon de salle. » Seule ma grand-mère, les yeux baissés, ne pipait mot. Moi, pétrifié, je subissais, je ne pouvais rien dire. Il ne servit à rien de leur répondre. Je m'accrochais, comme à une corde de survie intérieure, à cette phrase, combien de fois entendue dans la bouche de mon père, que oui, vraiment, la vraie noblesse, c'est la noblesse du cœur.
Alors, cette lecture met en exergue quelque chose qu'habite ce livre de manière permanente. Alors, la question de la famille, mais avec une forte dualité, notamment une personnage centrale, Moon. Moon, elle reste un peu de la famille, on va dire. Et c'est très évocateur, c'est-à-dire ce positionnement social, ce rappel, avec cet enfant décrit comme faisant des rencontres en permanence et des rencontres à l'encontre, je dirais presque, de cette perception qu'il a forte, plus qu'une perception, puisqu'il y a des mots qui le disent, de ce qui est bien de faire quand on occupe sa position sociale et de ce qui n'est pas bien. Peut-être votre échanger avec vous sur cette question vraiment forte dans votre roman.
Oui, c'est très fort dans la première partie. Oui, c'est la première partie qui est l'enfance, même l'adolescence aussi. Ensuite, les choses se résolvent par la liberté, enfin, la part de liberté que nous avons tous. Je pense que nul n'échappe à son milieu. Les poissons eux-mêmes sont dans le milieu de l'aquarium et on voit bien qu'ils vont par bandes, les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, etc. etc. J'ai toujours eu l'impression d'être un poisson un peu particulier qui n'aimait pas beaucoup traîner avec les bleus ou avec les rouges ou avec les verts, mais un poisson libre qui aimait bien aller de couleur en couleur. Et au fond, ce sentiment, oui, depuis tout petit, d'être né, bien sûr, avec une grande chance d'être... J'étais bien conscient que c'était merveilleux, la musique, les livres, tout ce qu'il y avait. Il y avait des choses formidables autour de moi, mais effectivement, le côté absolument tétanisant, enfermant, cette prison des idées toutes faites, des idées reçues, qui sont enseignées en bonne partie dans la bourgeoisie. Oui, c'était très lourd. Et au fond, La Rivière, bon, qui, est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est au cœur du livre. La Rivière, c'était le lieu de l'échappatoire. C'est d'ailleurs un livre que j'ai écrit à 18 ans, L'échappatoire, qui n'a pas été publié, mais c'est, le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, je m'échappais par la rivière, je m'échappais par la nature. Ce que faisait Rousseau aussi, on a cette beauté-là chez Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire. Et je m'échappais aussi par la rencontre merveilleuse des autres. Voilà, et les autres, c'est d'autres milieux, c'est d'autres poissons de différentes couleurs, comme il y en avait dans la rivière, il y en avait aussi parmi les humains, des autres.
Merci beaucoup.
La rivière salvatrice, justement, André va nous lire un dernier extrait.
C'est une longue route au-dessus des eaux, la mène à déborder. Au volant de la dauphine, Moon, son petit chapeau et son air décidé, est devenu le pilote d'un engin fou, une Formule 1, une coquille en acier qui tangue sous les coups de boutoir du vent d'ouest déchaîné, faisant friser les eaux au ras des parapets, vibrer la tôle du capot et s'écraser des lames sur le verre embué. Peur. Peur délicieuse du petit garçon scotché aux côtés de l'intrépide héroïne. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Sais-tu que j'ai appris à conduire parmi les premières chez Bidule sur les Champs-Élysées? C'était en 1920. J'ai oublié le nom du type qui devait être le seul à peu près dans le tout Paris de cette époque à délivrer aux jeunes filles des beaux quartiers des billets de conduite. Ma grand-mère n'a jamais su ce qu'était une boîte de vitesse. Cric-crac, de toute façon, fallait que ça passe. Elle en bousillait régulièrement une tous les 3 ans. Pour le reste, c'est-à-dire les imbéciles qui osaient débouler, venant d'un côté ou de l'autre dans l'axe de sa trajectoire, soit il la laissait passer et tout allait bien, soit il forçait le passage et elle les traitait de goujats. Parfois, le soir après dîner, Moon me demandait « Veux-tu que je te joue quelque chose ?» C'était le signal de ce temps où, métamorphosée en fée crépusculaire, elle osait faire jaillir enfin sa sensibilité. Alors, nous nous rendions au salon. Après une ou deux pièces de Bach, auxquelles succédait invariablement cette mélodie de Boelmann que nous aimions tant et qui lui rappelait sa jeunesse, Moon se risquait dans les nocturnes de Chopin, qu'elle interprétait remarquablement. Calée dans le canapé collé au mur, 5 ou 6 pas en arrière, j'observais le visage doux et grave de ma grand-mère, son port altier comme toujours. Ses cheveux blancs faisaient comme un petit nuage flottant par-dessus les volutes sonores qui m'emmenaient loin, si loin que je disparaissais bientôt, immobile parmi les portraits des ancêtres, noyé dans la grisaille assombrie de la pièce.
Merci André. Alors, La rivière salvatrice et La grand-mère refuge, c'est vraiment ce qui ressort ce petit garçon qui semble un peu livré à lui-même, c'est pour lui ces moments de bonheur, quoi.
Oui, complètement. Oui, ma grand-mère était un être qui avait souffert. Elle me l'a révélé un jour, c'était très secret. Elle n'avait pas épousé l'homme qu'elle aimait. On lui avait dit que c'était pas quelqu'un de son milieu. Première chose tragique. Et lorsqu'elle s'est mariée, son mari lui a dit « Tu ne peux pas devenir chanteuse d'opéra. » Elle était une très bonne chanteuse. Elle chantait dans les salons devant l'aristocratie russe qui avait émigré à cette époque-là. Elle était connue dans les salons, mais on lui a dit non, non, c'est le mariage, mais tu peux pas être chanteuse, ça ne se fait pas. Donc il y avait cette double tragédie en elle, et je pense que moi je le savais pas quand j'étais petit. Elle me l'a dit quand j'étais adolescent, mais quand j'étais petit, je devais sentir flairer tout ça, et ça nous a fait nous rejoindre.
Bon, eh ben, nous arrivons à la fin. Bon, il y avait quelque chose, mais bon, je pense qu'on ne va pas avoir le temps, mais je vais quand même le dire. C'est que le narrateur s'appelle Eric, donc, et à un moment donné, à peu près à 1000 livres, il devient Jean, le double de l'auteur, en fait.
Ouais. Oui, oui.
Brièvement, parce que...
Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que dans la première partie, c'est vraiment le petit garçon qui n'est pas encore libre, qui n'est pas encore révélé à lui-même. Et finalement, dans la deuxième partie, effectivement, quand il devient quelqu'un qui s'assume, il prend un nom d'auteur et il peut être lui-même. Voilà, c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin de... Voilà, peut-être que le narrateur devient plus présent dans la deuxième partie... Et existe grâce à ce deuxième nom.
Bon, alors... ben voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que le 6 et 7 novembre, il y aura les questions d'éthique au lieu unique. Et il y a également au lieu unique des... Ça s'appelle cavale... poème en cavale, plutôt. Donc des lectures, des débats autour de la poésie. Pour terminer... Nous écoutons Amour plastique du groupe Vidéo Club.
Alors, j'en dis juste un mot. Ouais. Je vous ai conseillé cette musique parce qu'il se trouve que c'est ma fille, c'est voilà, Adèle, qui chante dans ce groupe. Et puis surtout, c'est une magnifique chanson d'amour. Voilà.
C'est vrai que la voix est jolie.
Merci.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé. Perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré, qui es-tu, où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant.